Bonjour à tous, frères et sœurs en Christ. Quelle est l'une des choses qui horripile le plus les êtres humains? Ce qu'ils ont comme Satan et les démons le plus en horreur? Devoir admettre leur tort. Autrement dit, avoir à se repentir. Et non seulement admettre leur tort, mais en plus, devoir changer, devoir cesser de vivre comme ils l'ont toujours fait, se désintoxiquer, être spirituellement décontaminé, se reconvertir, faire autre chose, agir différemment, faire demi-tour, volte-face, renoncer à leur voie habituelle. Oh, que c'est difficile. Oh, que c'est embarrassant, humiliant, dégradant, honteux même. Oh, qu'il est dur de perdre la face. Et c'est bien une chose que non seulement Satan et des milliards de démons mais aussi des milliards d'individus ont en commun, mais ils refusent de le faire. Les êtres humains, à l'instar de Satan et de ses démons, sont bien trop sages à leurs propres yeux. Ils estiment n'avoir de compte à rendre à personne, et surtout pas à leur Créateur. Et évidemment, dans cette situation déplorable, s'érige le défaut terrible, dévastateur, destructeur et mortel qu'est l'orgueil. Tous sont bien trop fiers, bien trop présomptueux, bien trop de propre suffisance, bien trop orgueilleux. Quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie. Mais la sagesse est avec les humbles. L'arrogance précède la ruine. Et l'orgueil précède la chute. Tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoiqu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. Frères et sœurs, à 3 semaines de la Pâque, quel est notre état d'esprit ? À quoi ressemble notre bilan spirituel annuel? Reportons-nous à Actes chapitre 17 et le verset 30 pour débuter. Actes chapitre 17 et le verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir. Dieu, il y a quelque 2000 ans, par ses serviteurs, a commencé à annoncer à tous les hommes en tout lieu qu'ils doivent se repentir. Tous les hommes, mais aussi toutes les femmes. Est-ce ce que nous faisons? Quelle importance doit avoir pour nous le repentir? Dans quelle mesure nous accrochons-nous encore presque désespérément à nos voies? Cette existence physique et humaine, il importe à tout prix qu'avant la Pâque, cette Pâque, nous soyons pleinement et sincèrement repentis. Comme nous l'avons souvent expliqué, notre repentir est un exercice de toute une vie. Nous devons certes nous repentir de tous nos péchés passés et nous faire baptiser pour recevoir le Saint-Esprit, Quand Dieu nous appelle et nous ouvre l'esprit à la compréhension de sa voix. Mais le repentir est un exercice de toute une vie. Car la conversion est un processus de désintoxication, en quelque sorte. De désintoxication de la drogue du péché. Et une reconversion dans une voie totalement différente de la nôtre. En quoi cette Pâque de 2021 sera-t-elle différente des autres? Le sera-t-elle? Beaucoup sont venus et nous ont quittés. Est-ce parce qu'ils se sont lassés? Parce qu'ils ont cessé de se laisser conquérir par Christ? Je l'ignore. Je ne suis pas leur juge. Dieu seul connaît leur cœur. Ce que je sais, c'est où je me situe moi personnellement. Je m'interroge. Subsiste-t-il encore en moi une certaine désinvolture à l'égard de certains de mes défauts? Suis-je pleinement repentant? Pleinement conscient de ma fragilité? Luc chapitre 13, verset 1, Luc chapitre 13 et le verset 1. Quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit, « Croyez-vous que ces Galiléens aient été de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte ?» Oh non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tuée, croyez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Jésus disait à ceux qui l'interrogeaient qu'ils devaient se repentir. Sans doute certains d'entre eux se croyaient-ils plus justes. Quand on se drape dans sa propre justice, on n'éprouve nullement le besoin de changer, de se repentir, de se désintoxiquer, spirituellement parlant. Sommes-nous critiques, prompts à rouspéter, à juger, à condamner? Il est si facile de remarquer les défauts des autres et d'ignorer ses propres défauts. C'est si facile. Facile de chercher à ôter la paille dans l'œil de l'autre alors qu'une véritable poutre est dans le nôtre. Matthieu 7, versets 3 à 5. Une personne vraiment convertie est pleinement consciente du fait que le péché est un venin mortel, que nous avons besoin d'être entièrement purifiés, désintoxiqués, décontaminés à fond. Il y a plusieurs questions que je me pose avant la Pâque. Ces questions peuvent aussi vous aider dans votre préparation. La première question que je me pose est la suivante. Mon orgueil est-il l'obstacle majeur qui m'empêche de croître? Je le répète. Mon orgueil est-il l'obstacle majeur qui m'empêche de croître? Je souhaite de tout mon être faire de Christ mon meilleur ami, mon ami préféré, comme Abraham l'était. Être entièrement soumis à lui, être conquis par lui. Oh, l'orgueil prend diverses formes. Et quand on parle de fierté, c'est souvent de l'orgueil. Quasiment tous les êtres humains ont une certaine dose d'orgueil, une certaine forme d'orgueil, qui quelquefois ne se manifeste pas même. Nous nous donnons naturellement une certaine importance. Nous sommes souvent sages à nos propres yeux. Il est écrit « Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. » Proverbe 3, versets 7 et 8. Nous souffrons généralement d'une propension aiguë à dominer, à nous imposer à nos semblables. C'est même souvent le cas dans notre vie conjugale. Je ne peux m'empêcher de penser à Marguerite Froment, un petit bout de femme que j'ai connue dans ma jeunesse, une amie de la famille, haute comme trois pommes, comme on dit, une petite vieille du coin, qui passait souvent devant la maison pour faire ses courses, à pied, et qui était d'une discrétion quasi déconcertante, qui ne pensait qu'aux autres, toujours prête à aider, à rendre service. Elle n'était pas dans l'église, je ne l'étais pas non plus d'ailleurs à l'époque, qu'elle était différente de la plupart des femmes d'aujourd'hui, de toutes ces féministes. Puis-je être touché? Suis-je accessible, malléable? Ai-je le cœur assez tendre? Puis-je être ému? On l'est généralement quand on prend de l'âge. Il m'arrive plus souvent aujourd'hui de pleurer. Et ce n'est pas un signe de faiblesse. Si vous le pensez, tant pis pour vous. Christ m'a-t-il complètement conquis? Suis-je encore dans certains domaines de ma vie insoumis? Suis-je têtu? Cherchant toujours plus ou moins à faire les choses à ma façon? Nous souffrons souvent de ces défauts. Voyez-vous, frères et sœurs, entre nous et Dieu, il faut que ce soit le grand amour. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire par cela. Christ et l'Église sont des amoureux. La relation entre Christ et son Église est comparée à des fréquentations qui vont mener à un merveilleux mariage spirituel dans le royaume, à une union merveilleuse, totalement réussie, pleine d'amour. Ai-je encore du mal à accepter d'être maltraité pour la justice, d'être incompris? Christ, qui était juste comme personne ne l'a jamais été et ne saurait l'être, a accepté de souffrir injustement, sans jamais chercher à se venger, à rendre la pareille. Il se concentrait continuellement sur le bien-être et le bonheur des autres, sur ce qui devait être fait et non sur ses propres désirs ou sentiments ou préférences. Hébreux chapitre 5, verset 7, Hébreux chapitre 5 et le verset 7. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications. Des grands cris, des larmes, des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Christ aussi a pleuré. C'était tellement difficile pour lui. Voilà un Dieu et un homme qui est venu sur terre et sa vie a été de perpétuelles souffrances, pas nécessairement physique, mais surtout mentale. Surtout mentale. Et voyez l'état de l'humanité qui aurait pu réellement être heureuse. Il voyait toute la misère, toutes les souffrances qu'il y avait. Il ne cherchait pas son propre confort. Le pire péché de Satan était et demeure son orgueil. Qu'en est-il de moi? Qu'en est-il de nous? Avons-nous été conquis par Christ? Pour que notre Pâque soit la plus significative, nous devons confronter notre orgueil. Sommes-nous disposés à laisser le Saint-Esprit nous refaçonner, à laisser les Écritures nous mouler en des êtres vraiment spirituels? Christ était l'ultime exemple de gentillesse, de bonté, de douceur, de compassion, de miséricorde, de générosité et même d'humilité. Et pourquoi devrions-nous faire comme lui? Galates chapitre 3, verset 26. Qui sommes-nous? Qui êtes-vous? Qui suis-je? Galates chapitre 3, verset 26. Car vous êtes fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Est-ce que nous comprenons ce que cela signifie? Fils de Dieu, au milieu d'une génération totalement perdue et pervertie, quel honneur nous a été fait d'avoir été choisis, nous qui sommes si peu de choses, nous qui sommes rien. Est-ce que nous nous rappelons qui nous sommes? Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ ou filles de Dieu. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Et j'aime beaucoup cette image d'être revêtu par Christ, parce que nous sommes tous nus. Spirituellement parlant, nous sommes nus. Et là, nous revêtons Christ. Nous avons un apparat totalement différent. Oh, pas les habits que nous avons humainement, mais nous revêtons Christ dans ce sens que nous nous couvrons totalement de lui. Par tout ce qu'il fait, par sa mentalité, par ses pensées, par son comportement, tout ce qu'il faisait. Est-ce que nous avons revêtu Christ? Nous ne sommes pas là simplement pour plaire au ministre. Si quelques-uns d'entre vous, vous pensez qu'il faut à tout prix plaire au ministre, vous êtes complètement perdus. C'est entre vous et Dieu. Ce n'est pas entre vous et un autre homme. Nous sommes seulement des serviteurs pour vous aider, pour vous guider. Mais nous ne sommes pas parfaits, loin de là. C'est entre vous et Dieu. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous vous repentez? Est-ce que vous vous êtes repenti à cette époque de l'année? Est-ce que la Pâque de 2021 sera la plus significative pour vous et pour moi? Nous avons été appelés à plaire à notre Père Céleste et à son Fils Jésus-Christ. C'est entre nous et eux. Entre nous et notre Père Céleste, entre nous et Christ. Nous n'avons pas été appelés à nous faire valoir, à nous donner de l'importance, à nous enorgueillir, mais à nous revêtir d'humilité, de gentillesse, de bonté, de miséricorde, de patience, à devenir des serviteurs. Colossiens chapitre 3, verset 12. Colossiens chapitre 3 et le verset 12. Rappelons-nous qui nous sommes. Je dois me rappeler qui je suis. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, Colossiens 3, 12, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Nous perdons tellement de temps à critiquer les autres alors que franchement nous avons tellement de travail à faire en nous-mêmes individuellement. Mais par-dessus tout, toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Matthieu chapitre 23. Et le verset 10, Matthieu chapitre 23 et le verset 10, et je lirai ici la version Osterwald, qui à mon avis a mieux traduit l'idée. Matthieu chapitre 23 et le verset 10, Et ne vous faites point appeler docteur, car vous n'avez qu'un docteur, le Christ. Mais que le plus grand d'entre vous soit votre serviteur, car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Dans 3 semaines, nous laverons les pieds d'un frère ou d'une sœur en signe d'humilité. Et pour nous rappeler que nous sommes des serviteurs, pour bien montrer que nous sommes en décontamination spirituelle. Jean chapitre 13, verset 14, Jean chapitre 13 et le verset 14. Jean 13, 14. « Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns des autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. » Quelquefois, nous avons l'impression que nous sommes plus grands que le Seigneur. Oh, nous ne le disons pas, mais c'est l'impression que nous donnons. Et quelquefois, nous jouons ce petit jeu, n'est-ce pas? Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Je me demande ces choses à l'approche de la Pâque. Et je pense qu'il est bon que nous fassions tous de même. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 19. 1 Corinthiens 9, 19. « Bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous. » Et pensez à cela dans vos foyers, frères et sœurs aussi. Il y a tellement de compétition, une compétition insensée de nos jours. Entre l'homme et la femme, qui est le plus fort, qui est le maître de la maison, qui est le chef dans la maison. Tellement de gens qui n'ont absolument rien compris. Bien que je sois libre à l'égard de tout, je me suis rendu le serviteur ou la servante. Cela s'applique aux femmes aussi, la servante de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Mesdames, êtes-vous les servantes de vos maris ou bonnes dans le foyer? Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi, ou sous la malédiction de la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ. J'espère que vous comprenez ce que Paul veut dire ici, c'est un autre sujet. Nous sommes toujours sous la loi de Christ. Nous ne sommes plus sous la loi des sacrifices, enfin, mais c'est autre chose. Afin de gagner ceux qui sont sans la loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout cela à cause de moi. Non, à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part. Nous devons avoir part à l'Évangile, souscrire à ses valeurs, et non pas faire ce que nous voulons faire. Paul ne parle pas de compétition entre nous, ni entre les hommes et les femmes. La deuxième question que je me pose est la suivante. Suis-je un chrétien sincère, convaincu? Je répète, la deuxième question que moi je me pose est la suivante. Suis-je un chrétien sincère, convaincu? Nous devons faire ce qui est juste, non pas parce que nous sommes obligés, ou parce que nous allons être punis si nous n'agissons pas bien, mais parce que nous sommes persuadés de la justice divine, de la beauté, de la perfection, de la sainteté des voies de l'Éternel, parce que nous les aimons et désirons de tout notre cœur avoir les mêmes pensées que lui pour l'éternité, ce qui est diamétralement opposé aux voies de ce monde, contraire à tout ce que les gens font autour de nous. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 7. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 7. Qui suis-je? Qui sommes-nous? Qui êtes-vous? Nous sommes des enfants de Dieu, des fils de Dieu, des filles de Dieu. Est-ce que ces termes nous décrivent? Le mystère de l'iniquité agit déjà. Il y a près de 2000 ans que Paul a dit cela aux Thessaloniciens. Il agissait déjà, il agit encore beaucoup plus aujourd'hui. Le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu ou n'ont pas accueilli, c'est volontaire, l'amour de la vérité pour être sauvés. Cette vérité fait mal quelquefois. Quand nous nous regardons dans le miroir spirituel de la parole de Dieu, cette vérité doit faire mal parce que nous ne sommes rien. Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu, parce qu'ils n'ont pas accueilli cette vérité, cet amour de la vérité. Afin que ceux qui n'ont pas reçu, il leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas reçu, qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Oh, c'est intéressant ces passages ici. Qui prend plaisir à l'injustice? Il est question dans ce passage de l'impie devant apparaître au temps de la fin. Et il est précisé que ceux qui périssent n'ont pas accueilli la vérité ou n'ont pas cherché à la connaître et encore moins à la pratiquer. Le sens de l'original est plutôt « ils se perdront parce qu'ils n'ont pas accueilli et aimé la vérité qui les aurait sauvés » ou « ils n'ont pas accueilli l'amour de la vérité ». J'essaie de me concentrer sur cette expression, l'amour de la vérité. Moi, j'essaie de me concentrer là-dessus. Et je pense que nous pouvons tous faire de même. Avons-nous l'amour de la vérité? Accueillons-nous de tout notre cœur la vérité, même quand elle fait mal, quand elle nous oblige à changer, à effectuer des modifications, des changements désagréables dans notre comportement et nos idées? Quelle place la vérité occupe-t-elle dans nos vies, dans ma vie? Il y a un vieux dicton français du XIIIe siècle qui dit que toute vérité n'est pas bonne à dire. Pourquoi? Et on nous dit que, je cite, on nous dit que le mensonge et la dissimulation ont leur vertu. En effet, il est préférable de taire certaines vérités susceptibles de blesser son interlocuteur ou son public. Fin de citation. C'est ce que j'ai lu sur un site sous cette citation. C'est ce que bien des gens pensent, et c'est faux. Il est vrai qu'on est rarement prêt à recevoir la vérité. Néanmoins, un jour viendra où toute vérité éclatera, sera publiée, qu'on le veuille ou non, que le monde le veuille ou non. Et il y a cette autre expression qui devrait nous faire réfléchir, et les questions au verset 12 dessus, de ceux qui ont pris plaisir à l'injustice, ou au mal, ou auront pris parti pour le mal. Différentes traductions ici, où on prit plaisir à l'iniquité. Autrement dit, qui éprouve un malin plaisir à faire le mal. Cela ne nous décrit pas, j'espère que non, cela décrit les méchants, les rebelles, les incorrigibles, qui seront détruits. Mais, vous savez, cette expression me donne malgré tout à réfléchir. Quand nous ne sommes pas pleinement et sincèrement repentis, cela veut dire qu'il y a peut-être encore dans nos vies, dans quelques recoins bien cachés, bien discrets, un péché dont nous ne nous sommes pas pleinement repentis. Ce passage doit nous faire réfléchir. Dans quelle mesure est-ce que je prends encore plaisir à l'injustice, à ce qui n'est pas juste selon Dieu? Quand nous péchons, que nous succombons à un mauvais comportement, nous prenons volontairement ou involontairement plaisir à l'injustice, aux voies de ce monde. Quelle est ma plus grande faiblesse? Quelle est votre plus grande faiblesse? Quel est mon plus grand défaut? Quel est votre plus grand défaut? 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1, 1 Corinthiens chapitre 15 et le verset 1. Paul s'adresse ici aux Corinthiens et il dit, « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés ou en train d'être sauvés dans l'original. » Nous ne sommes pas encore sauvés, nous sommes en train d'être sauvés. Le salut, il viendra quand Christ reviendra. Pour le moment, nous ne sommes pas encore sauvés. Et à nouveau, le sens dans l'original, lorsqu'il est question, nous sommes sauvés, il est question d'être en train d'être sauvés. C'est un processus, nous ne sommes pas encore. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé, futur. L'évangile par lequel vous êtes sauvés ou en train d'être sauvés, si vous le retenez, si je le retiens dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Nous retenons l'évangile, les paroles de notre Père céleste et de Christ si nous sommes des chrétiens convaincus. Je me pose la question, est-ce que je suis un chrétien convaincu? Vous posez-vous cette question aussi? David était pleinement convaincu que Dieu a toujours raison, qu'il est parfait, que sa loi est juste, sainte, merveilleuse et parfaite. À nouveau, c'est entre nous et Dieu. Nous ne sommes pas là pour plaire aux autres, pour plaire aux ministres. C'est sérieux. C'est sérieux cet appel que nous avons. Est-ce que nous nous sommes réellement repentis à fond? Je suis attentif à tes préceptes. Je vois des bornes à tout ce qui est parfait. Tes commandements n'ont point de limite. Combien j'aime ta loi. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Est-ce le cas pour nous? Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours devant moi. Est-ce que je les ai toujours devant moi? Est-ce que nous les avons toujours devant moi? Oh, je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin afin de garder ta parole. Je ne m'écarte pas de tes lois, car c'est toi qui m'enseignes que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Est-ce que je peux dire cela? Est-ce que vous pouvez dire cela? Psaume 119, verset 95 à 103. Psaume 119, verset 95 à 103. C'est ce que nous devrions ressentir si nous avons l'amour de la vérité. Et à nouveau, une vérité qui, surtout à ce moment de l'année, nous fait mal. Parce que nous nous regardons dans ce miroir qu'est la parole de Dieu, et nous nous rendons compte, je n'y suis pas encore. J'ai fait des progrès, mais il y a encore des progrès à faire. Je ne suis pas encore prêt. Je demande aussi à Dieu, en cette période de l'année, de m'aider à voir les domaines dans lesquels j'ai besoin de m'améliorer. David demandait même à Dieu de l'éclairer sur les défauts dont il n'avait même pas conscience, sur les péchés qu'il commettait sans le savoir, qu'il commettait involontairement. Dans le psaume 19 au verset 12, et je ne fais que le citer faute de temps, il dit ceci, « Qui connaît mes égarements? Pardonne-moi ceux que j'ignore. » Ou, comme le dit la version Osterval, « Qui connaît ses fautes commises par erreur? Pardonne-moi mes fautes cachées. » Vous savez, frères et sœurs, nous sommes, nous autres humains, hommes et femmes, tellement présomptueux, arrogants même, tellement enflés. Bien souvent, sans même nous en rendre compte. Mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voix ne sont pas vos voix, ou vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Ça fonctionne dans les deux sens. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Vous connaissez le passage, Ésaïe 58, versets 8 et 9. Nous savons, comme l'a écrit Paul dans Romains 7, 14, que la loi divine est spirituelle. Nous savons ces choses, mais tout est question d'intensité, de degré, n'est-ce pas? Dans quelle mesure, à quel degré, avec quelle intensité, est-ce que j'éprouve cet amour? Est-ce que je suis un chrétien converti? Dans quelle mesure suis-je conscient de ma fragilité? Romains 7, 14 à 25. Romains 7, 14 à 25. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais. Voilà un géant spirituel qui parle et qui fait le point, qui fait son bilan spirituel, et voilà ce qu'il constate. À nouveau, la vérité n'est pas facile à accepter. Avons-nous le courage de l'accepter, la maturité de l'accepter? Cette vérité fait mal. Elle fait mal chaque année. Nous avons besoin de nous repentir à fond. Qui sommes-nous? Nous sommes rien. Sans Dieu, nous ne sommes rien. Homme ou femme. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Voilà ce que Paul disait alors qu'il a dit cela, ça faisait déjà un bout de temps qu'il était dans l'Église. Mais il avait une honnêteté formidable ici de voir qui il était. Qui sommes-nous? Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, je fais ce que je hais. Il se rend compte qu'il y a une bataille en lui, dans son cœur. Il veut faire ce qui est juste, mais oh que c'est difficile. Et si vous ne comprenez pas ce que Paul dit ici, ou ce que je dis ici aujourd'hui, vous n'avez rien compris. Vous ne vous connaissez pas vous-même. Et il est temps que vous réfléchissiez à toutes ces choses. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Oh, ce péché! Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté. Oh, je veux faire ce qui est bien, mais pas le pouvoir de faire le bien. Je n'ai même pas la force de faire le bien. Je veux, mais... Bon, ça ne veut pas dire par là que nous ne devons pas essayer. Oh non. Mais Paul est d'une honnêteté ici déconcertante, n'est-ce pas? Nous nous voyons dans lui. Nous lisons ce passage et c'est notre description à nous tous, hommes et femmes. Je fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Oh, cette nature humaine. Je trouve donc en moi cette loi, quand je vais faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu. J'aime la loi de Dieu. Selon l'homme intérieur, selon l'homme converti. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Oh, que je suis un être formidable. Oh non, regardez ce qu'il écrit ici, misérable que je suis. Il est question de repentir, frères et sœurs. Voilà comment Paul se voyait, misérable que je suis. Qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Par Jésus-Christ notre Seigneur, c'est lui qui peut nous aider à nous extirper de cette condition, à nous désintoxiquer totalement. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, c'est la solution, c'est lui qui me délivrera de ce corps de mort. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, je suis par la chair esclave de la loi du péché. Et vous et moi, nous sommes toujours esclaves de la loi du péché, dans une certaine mesure. La troisième question que je me pose et que nous pouvons tous nous poser est la suivante. Est-ce que je suis accroché au cep? Nous souhaitons tous que Christ soit à la barre de notre vaisseau et notre capitaine dans l'océan houleux de la vie. Suis-je accroché? Suis-je fermement accroché à Christ? Jean chapitre 15, verset 1, Jean chapitre 15, verset 1, un passage merveilleux qui est d'une grande profondeur. Et à ce moment de l'année, plus qu'à tout autre, nous devons nous poser la question, est-ce que je suis réellement accroché à mon Père céleste, à Christ? Jean chapitre 15, verset 1 à 11, « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Quand il nous émonde, ça fait du mal parce qu'il coupe. C'est cela, émonder. » Je ne sais pas si vous connaissez quelque chose sur la vigne. C'est un autre serment, tout cela aussi, mais il coupe pour que nous portions plus de fruits. Il y a des branches, il y a des sarments, et le vigneron les coupe. Comme ça, il y a plus de fruits. Ça donne plus de force au cep, et puis il porte plus de fruits, mais il faut couper, ça fait mal. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. « Demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Nous sommes les sarments. Je suis un sarment, frères et sœurs. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Vous pouvez lire le restant du chapitre. Je ne le lirai pas à ce stade, mais lisez-le et réfléchissez à ce qui est écrit dedans. 1 Jean chapitre 2, verset 5. 1 Jean chapitre 2 et le verset 5. L'amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui garde sa parole. Par cela, nous savons que nous sommes en lui, que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Pratiquer ce qu'il a pratiqué, avoir le même comportement, avoir les mêmes idées. Et c'est un bon moment pour nous, à cette époque de l'année, de nous dire, mais est-ce que je suis attaché au cep comme je le devrais? La quatrième question que je me pose à l'approche de la Pâque est la suivante. Est-ce que je coopère avec Christ ou est-ce que je ralentis tout ce qu'il essaye de faire en moi? Je répète, est-ce que je coopère avec Christ? Est-ce que je l'aide dans ce qu'il essaye de faire en moi, ou est-ce que je n'insiste pas encore à nouveau pour faire les choses à ma façon? Vous savez, c'est intéressant, là, cette nature humaine, quelquefois nous demandons à Dieu quelque chose, aide-moi Dieu, et puis après, nous sortons, nous avons fini de faire notre prière, et nous recommençons à insister pour ce que les choses soient faites à notre façon. Si nous confions un problème à notre Père céleste, nous devons le laisser agir après. Nous remettons le problème entre ses mains, il faut le laisser agir. Mais ce n'est pas facile, n'est-ce pas? Ce n'est pas facile. Est-ce que je me laisse guider par le Saint-Esprit ou est-ce que ma nature humaine insiste à ce que les choses soient faites à ma façon? Christ, dans la plus terrible épreuve de sa vie, bien que terrifié à l'idée de ce qui l'attendait, chercha avant tout la volonté de son Père. Ça m'échappe encore. Il déclara, agonisant, « Père, si tu voulais éloigner de toi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Ouh, que c'est difficile. Luc 22, 42. Nous avons des choix à faire, des choix, ces choix sont les nôtres. Si le Saint-Esprit est en nous, il affermit notre volonté humaine. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement. Et c'est là notre décision, notre choix, ce n'est pas impossible. En fait, c'est ce que nous devons faire. Désirez faire et faire. Mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, disait Paul, mais comme pour plaire au ministre, pour se faire valoir. Non, non, mais plus encore maintenant que je suis absent, quand personne ne voit, c'est là que les choses comptent pour Dieu. Quand personne n'est là pour voir. Car c'est Dieu qui est là dans Dieu qui est là dans le secret et qui voit dans le secret, incidemment, c'est lui qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. C'est lui qui nous donne la force et le pouvoir d'accomplir ce qui est bien. Philippiens chapitre 2, versets 12 et 13. Paul, dans Romains 8, 14, identifie les enfants de Dieu. Ce sont ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Oh, pas qui ont de temps en temps quelques petites minutes avec le Saint-Esprit, quelques petites minutes avec Dieu, non, mais qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Et moi, je dois me demander à ce stade, à cette époque de l'année, est-ce que je suis réellement suffisamment conduit par l'Esprit de Dieu? Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit, fait remarquer Paul dans Galates 5, 23. Enseigne-moi à faire ta volonté, disait David, car tu es mon Dieu, que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Psaume 143, verset 10. À l'approche de la Pâque prochaine, je me pose aussi une autre question en effectuant mon bilan spirituel annuel, en m'examinant. Et je pense que ce doit être utile pour vous aussi. Est-ce que l'homme intérieur se renouvelle en moi chaque jour? Cinquième question, est-ce que l'homme intérieur se renouvelle en moi de jour en jour? Le processus est-il engagé, bien engagé? Est-ce que je progresse? Est-ce que je m'améliore? Ai-je remporté des victoires dans le domaine spirituel? Quelqu'un qui porte des fruits, qui est un sarment, qui porte plus de fruits, a des victoires. Quelquefois, c'est de petites victoires. Mais à chaque fois qu'il y a même une petite victoire, c'est encourageant, n'est-ce pas? Mais nous devons avoir des victoires, nous devons croître, nous devons produire. Est-ce que Dieu a la priorité dans nos vies? S'il a la priorité dans nos vies, nous allons remporter des victoires. Pourquoi? Parce que ce n'est pas nous qui accomplissons ces choses, c'est Dieu. C'est notre Père céleste, c'est Christ qui agit en nous. Suis-je meilleur chrétien ou chrétienne cette année que l'année précédente? Ma conversion est-elle en marche? Ma désintoxication spirituelle est-elle en bonne voie? Il est facile de se laisser contaminer par le monde. J'ai besoin de rester proche de mon Père céleste et de mon Christ. Je ne perds pas courage. Et même si mon homme extérieur se détruit, mon homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Nous savons en effet que cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, ou elle va être détruite, ou elle se détruit de jour en jour. Nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a point été faite de main d'homme. Aussi gémissons-nous dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, n'est-ce pas? 2 Corinthiens 4, verset 16 à 5, verset 2. En examinant nos vies, frères et sœurs, constatons-nous que nous continuons de nous repentir, d'approfondir les choses, d'approfondir nos convictions, de nous perfectionner, de changer, de devenir de plus en plus un avec Dieu, comme Christ en a exprimé le vif désir dans sa prière au Père dans Jean 17, avant son supplice. La quatrième question que je me pose est la suivante. Ai-je la conscience tranquille? Ai-je la conscience tranquille? Ai-je pardonné à ceux qui m'ont offensé? Quand nous prions et que nous nous présentons devant l'Éternel, et lorsque nous nous présenterons devant lui le vendredi 26 de ce mois, dans la soirée pour célébrer la Pâque, nous nous offrirons symboliquement à notre Père Céleste. Serons-nous en paix avec nous-mêmes et avec tous, ayant fait notre possible pour que l'on n'ait rien à nous reprocher? Et c'est surtout une question de paix interne ici. Si vous avez des personnes que vous avez offensées et qui se souviennent, bon, si elles ne se souviennent plus ou si c'est du passé, il faut être équilibré dans ce domaine aussi. Vous n'allez pas aller par toute la terre, dire à tout le monde que vous avez pardonné, ou etc., etc. Non. Mais nous devons être en paix avec tout le monde. Et c'est surtout une paix qui est de notre côté intérieurement. Est-ce que je hais cette personne ou alors est-ce que je l'aime? Dans certains cas, vous essayez de vous réconcilier avec quelqu'un, mais si l'autre personne n'est pas prête, il n'y a pas grand-chose que vous puissiez faire. Mais vous avez fait votre part, mais lorsque vous vous présentez devant Dieu, vous devez être certain que vous avez pardonné. C'est surtout cela. Vous savez, quelquefois, il y a des choses qui se sont passées il y a des années, et puis alors, à quoi ça sert d'aller voir cette personne dit « Ah, j'espère que tu ne m'en veux pas d'avoir fait ce que j'ai fait il y a 4 ans ou 5 ans, ou je ne sais trop quoi. » Il dit « Mais quoi? Ils ne se souviennent même plus. Il n'est pas question de cela. » C'est surtout de notre côté. Est-ce que nous vivons, nous, en paix avec le monde? Matthieu 5, versets 23 et 24 dit ceci: si tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, mais c'est plutôt dans le temps présent, laisse là ton offrande devant l'autel, il va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. À nouveau, c'est surtout dans le temps présent, c'est trop passé, c'est dans le passé, c'est fini, il n'y a plus rien que vous puissiez faire. Mais si dans le temps présent, s'il y a un frère qui a quelque chose contre toi, il faut aller se réconcilier à lui dans le temps présent. Laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. C'est Matthieu 5, versets 23-24. « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. » Il est question pour nous de pardonner, surtout. Nous devons être certains que nous pardonnons aux autres. Parce qu'ainsi, si nous avons pardonné, si nous sommes en paix avec les autres, nous n'avons rien à craindre. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Matthieu 6, 14 et 15. Matthieu 6, 14 et 15, vous connaissez le passage. La voix de notre Dieu est merveilleuse, tellement différente de celle des hommes. C'est une voix d'amour qui se soucie du bien-être de tous nos frères humains. Il dit même dans Matthieu 5, versets 44 et 46, « Aimez vos ennemis ». Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Celui qui prétend être dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres, a dit Jean dans 1 Jean 2, 9. Alors, où est-ce que je me situe dans ce domaine? Où est-ce que je me situe dans ce domaine? Et il y a une autre question que je me pose, une autre question que nous pouvons tous nous poser. Comment suis-je perçu? Suis-je une lumière qui suit? Suis-je le sel de la terre? Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Nous devons être le sel de la terre en ce sens que nous devons avoir de la saveur pour ce monde, lui apporter quelque chose, faire une différence. Si nous sommes le sel de la terre, nos défenses spirituelles sont plus fortes. Nous sommes spirituellement immunisés contre les maladies spirituelles. Et quand nous sommes, spirituellement parlant, le sel de la terre, nous donnons plus de goût au monde aussi. Si aux yeux de Dieu nous sommes le sel de la terre, nous devons être spirituellement purs. Si aux yeux de Dieu nous sommes le sel de la terre, nous conservons, nous préservons ce monde de la décomposition, de la destruction. Dieu voit un certain nombre de justes ici, et à cause de nous, à cause de ces justes, il ne fera pas certaines choses. Il va sauver le monde, il va sauver physiquement le monde, même à cause de ces justes qui sont là, qui sont les siens. Moins nous cherchons à être comme le sel pur, plus nous cherchons à modifier ce que Dieu a fait en nous en étant charnellement pur ou raffiné, et plus nous devenons nocifs. Chaque être humain devra tôt ou tard, spirituellement parlant, être le sel de la terre, mais pour le moment il s'agit de nous, de vous et de moi. Vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et l'éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. En guise de conclusion, frères et sœurs, c'est cette question que je me les pose. Et j'ai le sentiment qu'il est bon que vous vous les posiez aussi. Mon orgueil est-il l'obstacle majeur qui m'empêche de croître ? Suis-je un chrétien sincère, convaincu? Est-ce que je suis accroché au cep? Est-ce que je coopère avec Christ? Ou est-ce que je ralentis tout ce que Christ essaye de faire en moi? Est-ce que je l'empêche de m'aider? Est-ce que l'homme intérieur se renouvelle en moi de jour en jour? Ai-je la conscience tranquille? Ai-je pardonné à tous ceux qui m'ont offensé? Comment suis-je perçu? Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, a, il y a quelques 2000 ans, annoncé à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils doivent se repentir. Et tous devront tôt ou tard se repentir, mais pour le moment, c'est pour nous. Ils doivent se repentir parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, Christ, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. C'est maintenant que nous sommes jugés, vous et moi. La Pâque n'est plus qu'à une 20aine de jours. Apportons les touches finales à notre préparation afin qu'elle soit la meilleure, la plus émouvante, la plus significative de toutes, afin que nous la célébrions dignement, nous étant pleinement repentis, nous étant revêtus d'humilité, afin de pouvoir être lavés, purifiés. Je vous souhaite à tous une bonne fin de sabbat, une bonne préparation pascale, et je vous souhaite bon courage. Au revoir, mes amis. À bientôt.